France Inter, le 18-20.
C'est un échec qui a fait couler beaucoup d'encre, provoqué de nombreuses réactions. Il y a quelques jours, la Commission a refusé la fusion Alstom-Siemens. Refus au nom des bienfaits de la concurrence, de l'équité pour les entreprises. Refus sans être favorable aux consommateurs. Oui, mais voilà, le patronat, les gouvernements français et allemands n'ont pas digéré cette décision. Une erreur pour Bruno Le Maire. Margaret Vestager, la commissaire européenne qui a dit non, a déclaré « Il est important de ne pas tomber dans le piège de penser que le grand est toujours mieux ». Alors la bonne question qui se pose aujourd'hui, ce soir, politique de concurrence et politique industrielle sont-elles devenues à ce point incompatibles qu'elles empêcheraient la création de champions européens ? En clair, face aux ogres américains et chinois, l'Europe est-elle l'idiote du village planétaire qui se laisserait croquer toute crue ? La politique industrielle européenne n'est-elle qu'un mythe ? Et si oui, deviendra-t-elle un jour une réalité ? Et s'il existe bien une industrie en Europe aujourd'hui, existe-t-il une vraie industrie européenne ? C'est le téléphone sonne en direct, nous sommes au Parlement européen, c'est jusqu'à 20h.
Le téléphone sonne Europe. Stéphane Leneuf.
Et au 01 45 24 7000, Frédéric, vous nous appelez de Pau. Bonsoir Frédéric, on vous écoute.
Oui, bonsoir à tous. Alors je pense effectivement que la politique industrielle ne se limite pas à la présence de grands groupes industriels qui d'ailleurs bien souvent passent leur temps à rançonner les sous-traitants. Et je pense qu'on aura du mal à avoir une politique industrielle cohérente tant que régnera la concurrence sauvage à la fois fiscale et disons et sociale avec un dumping. Je pense par exemple au Loirf en Allemagne qui a permis à l'Allemagne de reprendre disons la suprématie industrielle sur l'Europe. Alors je voulais demander aux intervenants s'ils pensent qu'on pourra un jour avoir une esquisse de planification et avec une convergence sociale et fiscale qui permettrait d'avoir une politique industrielle cohérente en Europe, ce que je ne pense pas moi personnellement.
Merci Frédéric, vous nous appeliez de Pau. Pour répondre à vos questions autour de ce plateau, j'ai réuni Christine Revaud-Allonne, bonsoir.
Bonsoir.
Du groupe Alliance Progressiste et Socialiste. Dominique Riquet, bonsoir.
Bonsoir.
Groupe Alliance des Démocrates et des Libéraux. Et Andreas Schwab, bonsoir.
Bonsoir.
Député européen-allemand du groupe du Parti Populaire Européen, qui répond à Frédéric, politique industrielle, sociale. Christine Revaud-Allonne.
Écoutez, moi je suis un peu plus optimiste que l'auditeur, tout simplement parce que c'est une question de volonté politique. À un moment donné, il faut avoir une majorité politique pour la mettre en place, cette politique de protection en termes de fin de la concurrence sociale et aussi de cette concurrence industrielle qui n'a plus de sens dans la mondialisation sur laquelle tout le monde a fait le constat que toutes les directives européennes qui existaient en matière de non-concurrence au sein de l'Union européenne est dépassée et qu'il faut revoir ça. Mais sur les questions sociales, c'est la même chose. Et d'ailleurs, la question qui était posée par Alstom Siemens, pourquoi elle était importante ? D'une part, parce qu'on pouvait enfin mettre en place un champion européen dans ce secteur-là pour être concurrentiel face au monstre chinois qui est en train d'arriver sur le terrain européen. Et d'autre part, dès lors qu'on mettait en place toutes les dispositions pour garantir l'emploi à la fois chez Alstom et à la fois chez Siemens. Et comme l'un et l'autre n'avaient pas les mêmes offres de construction de trains, il y en avait un qui est plutôt spécialisé en train à un étage et l'autre train à deux étages, ça avait réellement du sens. Et ça, pour y arriver, il faut avoir une majorité politique au Parlement européen et puis ensuite, effectivement, à la Commission européenne et au Conseil. Mais il faut, pour cela, voter le 26 mai pour avoir une majorité à gauche.
Andreas Schwab, français et allemand, pour une fois, on a envie de dire, étaient sur la même longueur d'onde. Ils auraient bien aimé que cette fusion se fasse. Ils fustigent aujourd'hui la Commission qui empêche effectivement des champions européens de se créer. Pour quelles raisons ? Alors, visiblement, Bruno Le Maire et son homologue allemand, à une manière, souhaitent changer les règles de la concurrence. Est-ce qu'on va être capable de changer de la concurrence, oui ou non ?
Je ne suis pas sûr que ça se ferait si rapidement, car finalement, il faut donner une réponse claire à la demande qu'est-ce que c'est un champion européen ? Je pense d'abord, ça ne peut pas être quelque chose qui se décide entre la France et l'Allemagne et tous les autres pays autour disent oui, non, jamais. Et ce n'est pas une volonté mauvaise de la part des autres, c'est juste le constat que le champion européen doit être vraiment quelqu'un qui offre un produit impeccable pour un prix impeccable. Et je pense malheureusement que, je le regrette d'ailleurs, mais je pense malheureusement que les deux entreprises n'ont pas pu prouver que leur fusion serait finalement, aurait finalement le résultat d'avoir un prix impeccable pour un produit impeccable. Et c'est quand même ça ce qu'il faut au niveau mondial.
Dominique Riquet.
Oui, alors, moi je suis partisan à la fois de la convergence fiscale et sociale, comme le président de la République l'a exprimé récemment, et aussi des champions européens et de l'Airbus. Mais dans l'état actuel du droit européen, la commissaire a appliqué, entre guillemets, la règle. C'est-à-dire que les règles sur la concurrence visent à préserver les consommateurs européens des situations de monopole qui dégradent la concurrence et donc qui se traduisent en général par une dégradation des conditions de prix pour le contribuable ou pour le consommateur. Donc, en l'occurrence, il faudrait d'abord changer cette règle, c'est-à-dire changer la mission de la Commission.
Alors, changer cette règle, est-ce que ces règles sont devenues obsolètes? Mais concrètement, qu'est-ce qu'il faudrait changer? Il faut changer complètement le logiciel aujourd'hui, parce que le logiciel, c'est la protection du consommateur, et visiblement, ça ne permet pas la création de champions européens.
Alors, je pense qu'il faudrait effectivement qu'on s'oriente pas seulement vers la concurrence intérieure au marché, mais aussi vers la concurrence mondiale, extérieure, ça c'est clair. Mais la deuxième chose, c'est qu'il y a aussi d'autres moyens de faire face à la concurrence externe avec des principes d'accès égalitaire au marché public, des principes de réciprocité et des principes de protéger, entre guillemets, le marché européen lorsque la concurrence n'est pas loyale. Donc, il y a sûrement élargir notre point de vue sur les règles de la concurrence et de construire des champions européens, je crois que c'est quand même nécessaire. Et en même temps, de défendre un peu mieux, ou d'établir des règles claires sur la concurrence internationale vis-à-vis du marché européen.
Est-ce que tout le monde veut des champions européens aujourd'hui en Europe, Christine Rodallone? On a vu qu'il y avait des pays quand même qui avaient considéré que la décision de la Commission était une bonne décision.
Mais à partir du moment où ça reste que dans un dialogue franco-allemand, et en effet, quand on a parler de cette fusion, l'idée qu'il faut absolument avoir, c'est se dire qu'on va créer des entreprises de ce champion européen, pas uniquement en France et en Allemagne, mais dans l'ensemble de l'Union européenne. C'est ce que nous disent nos collègues de Bulgarie, de Roumanie, etc. Pourquoi on n'investit pas et on n'étend pas notre champ d'action dans ces territoires-là, qui sont d'ailleurs les premiers sur lesquels le marché chinois et CRCC, qui est le grand concurrent, qui construit et qui propose et qui vend bien plus de trains au sein de l'Union européenne qu'Alstom et Siemens aujourd'hui. Et tout ça pourquoi? Parce qu'ils ont des prix qui défient toute concurrence et parce qu'on n'a pas d'emploi européen alors qu'on pourrait totalement les créer. On doit vraiment revoir ce logiciel et je pense que les collègues, dès lors qu'on n'a pas une réflexion uniquement sur la France et l'Allemagne mais réellement une réflexion européenne, on peut y parvenir. Et on a déjà avancé parce que les députés européens, ils ne sont pas simplement assis sur leur chaise comme le dit la ministre de l'Europe, Madame Loiseau. On travaille et on a adopté un amendement qui est très important, qui rappelle que désormais on demande à ce que dans les marchés publics européens, il y ait au moins 50% de production qui proviennent d'industries européennes. Et ça, c'est un pas en avant qui n'avait pas été fait jusque-là et qui démontre que ça va au-delà du couple franco-allemand.
Margaret Sager dit qu'il n'y a pas de crainte de voir les Chinois débarquer. Est-ce qu'on peut la croire?
C'est faux.
Alors, tout d'abord, je suis d'accord avec ma collègue que les députés au Parlement européen travaillent beaucoup et qu'on essaye aussi de s'imposer sur des questions importantes. Sur cette question-là, sur le concurrent chinois, je pense malheureusement que la Commission européenne a pris un point de vue regardant les trains à très grande vitesse. Et sur ce marché-là, et c'était le marché clé, les Chinois en Europe n'ont jusque maintenant eu aucune chance, car la seule offre qu'ils ont faite était entre Londres et Birmingham, ou Londres vers le nord.
Pas de crainte de voir
là,
les Chinois débarquer
ils ont été bloqués
sur le marché européen.
Exact. Et c'est pour ça que le marché, malheureusement, a été défini différemment.
Dominique Riquet, vous ne semblez pas tout à fait d'accord.
Ah oui, d'abord, je ne pense pas que Nathalie Loiseau ait dit que les députés européens travaillaient
pas. On va faire la petite politique intérieure ici. On ferme la parenthèse, on n'est pas là pour faire la politique intérieure.
Alors, très exactement, actuellement, les Chinois ont un marché interne d'une profondeur extrême. Tout seul, ils représentent en grande vitesse, par exemple, 80% des projets. Bon, la deuxième remarque, c'est que sur le marché international, c'est-à-dire en dehors de la Chine, ils sont très peu présents, 8% du marché. Qu'actuellement, l'Europe détient 50% du marché ferroviaire international dans le monde.
C'est l'Europe qui est en position de force.
Bien sûr. Et c'est aussi ce qu'a exprimé la commissaire Vestager en disant Pour l'instant, ils n'ont pas de pénétration forte sur le marché mondial, parce que leurs technologies ne sont pas suffisamment concurrentes. Que deuxièmement, il y a des protections, ce que vient de dire Christine sur la protection du marché intérieur, ça existe, et ça vient d'être renforcé par le travail des députés, mais qu'il faut aussi offrir des technologies qui soient concurrentielles. Alors, ils vendent effectivement du matériel, mais qui n'est pas du matériel de très haute technologie, dans un certain nombre de pays tiers, notamment sur des motrices diesel dans lesquelles ils ont des séries importantes, mais ils ne sont pas actuellement en situation de concurrencer la haute technologie européenne. Et puis, il faut rajouter une chose, c'est qu'il y a des gens qui se sont réjouis en Europe de cette non-fusion, c'est qui ? Ben, ce sont les concurrents qui sont en Europe, de Bombardier et d'Alstom, et qui sont extrêmement présents. Je veux dire, les Espagnols, les Italiens, Ansaldo, Transferaldo, par exemple, ou Bombardier, bon.
Mais, Canadien Bombardier, hein,
oui, c'est européen. Canadien, mais très grosses installations en Europe. Ces installations ferroviaires ne sont pas au Canada, elles sont essentiellement en Europe. Elles sont en Allemagne et en France. Et il faut savoir quand même que les gens qui ont transmis la technologie de la grande vitesse aux Chinois, c'est Bombardier.
Avant, on retourne au standard avec Jean-Marc qui nous appelle du Loiret. Bonsoir Jean-Marc, on vous écoute.
C'était la question que je voulais poser sur Alstom et Siemens. On nous a vendu l'Europe en nous disant qu'on pourrait parler d'égal à égal contre les États continentaux style Chine et États-Unis. Et je dirais même que c'est affligeant. Et je dirais même, on a déjà des grands groupes en Europe et on a rien dit du style Renault et Volkswagen au niveau automobile.
Et pourtant, c'est-à-dire
un quasi-monopole au niveau européen.
Donc le risque de monopole. Christine Revaud-Allonne, vous voulez répondre à Jean-Marc ?
Je pense que chez les constructeurs automobiles, il n'y a pas ce monopole-là dans la construction automobile. Il y a beaucoup plus de constructeurs que Renault et Peugeot. Mais ce qui est important de voir, c'est que quand CRCC, donc le concurrent chinois d'Alstom et Siemens, ils sont en capacité de produire 230 5 trains à grande vitesse, Alstom et Siemens n'en produisent que 35. Donc à un moment donné, soit on se dit bon bah c'est pas grave, on a perdu la bataille, ou soit on se dit non, on a réellement besoin de faire développer, de créer réellement ce champion européen, sortir du prisme France-Allemagne et le développer à l'échelle de l'Union européenne pour pouvoir proposer ce type de train au sein de l'Union européenne et à l'extérieur aussi. Et dans nos rapports que nous avons avec ces grands groupes que sont notamment les Chinois, il faut aussi qu'on mette en place quelque chose qui avait été proposé par les députés européens, et c'était à l'initiative d'Edouard Martin que ça avait été proposé, c'est l'ajustement carbone aux frontières, pour faire en sorte que l'acier importé et le coût carbone qui est fait par la Chine soit taxé de la même manière que ce que nous produisons en Europe. En Europe, on produit 2 tonnes de... Quand on produit 2 tonnes de CO2 liées à cette construction avec l'acier, c'est 3 tonnes au niveau chinois. Donc il faut à un moment donné qu'on mette cet ajustement carbone aux frontières. Et c'est complètement dans le débat sur la transition écologique vers laquelle nous devons aller. Donc on doit mettre en place un certain nombre d'outils sur lesquels on a déjà fait des propositions. On n'avait pas la majorité pour le faire, mais il faut absolument qu'on l'ait pour être réellement compétitif d'une façon plus
globale. André Schwab, quand les Français et les Allemands disent on va changer les règles, concrètement il va falloir l'unanimité des 27, est-ce que c'est réalisable ? Est-ce que c'est crédible ?
Bon, au moins ça mérite d'être débattu. Mais je pense que l'exemple que Dominique a donné récemment de Airbus, malheureusement, c'est un exemple qui n'existe plus. Car on n'a plus des entreprises où les États ont vraiment des actions, des grandes actions dedans, où on peut vraiment trouver une opportunité européenne en collaborant. Les entreprises comme Alstom et Siemens, c'est des entreprises cotées en bourse, et les propriétaires veulent avoir le meilleur deal. Ils ne veulent pas une coopération franco-allemande, une coopération européenne, des implantations en Bulgarie, en Roumanie, ils veulent le fric. Et donc, si c'est la logique, c'est très difficile pour nous en tant que politiques de dire ah ben, vous faites comme ça. Non, ils ne veulent pas le faire.
Et donc, vous, les politiques, vous pouvez changer les règles. Et ça s'avère quand même assez compliqué.
Les règles, oui, on peut les changer, mais il faut une majorité. Et la majorité se fera sur base d'une logique sérieuse. Et non seulement sur base d'une logique d'une meilleure implantation en Europe. Et donc, c'est, à la fin, on revient sur la question qu'est-ce que ça pourrait être un champion européen ?
Marie-Claire, on vous retrouve au standard. Bonsoir, vous êtes sur France Inter, 19h37. On vous écoute.
Oui, je voulais rappeler dans votre débat que les syndicats étaient hostiles à la fusion Alstom-Siemens. parce qu'ils considéraient que derrière, il n'y avait pas un véritable projet industriel. La CGT en particulier, mais les syndicats portent l'idée d'avoir une véritable politique industrielle au niveau européen, justement pour répondre aux besoins des populations, mais que dans le cas présent, on assistait plutôt à la fin d'Alstom, un des fleurons industriels français. Je voulais quand même rappeler que Alstom, qui a été une très grande entreprise, il y a déjà eu le bradage, j'allais dire, de la branche énergie à General Electric, qui a conduit à ce que tous les brevets, en particulier des turbines, des centrales nucléaires et des sous-marins nucléaires partent aux États-Unis. Donc ça a été une perte extrêmement importante en termes de maîtrise et d'indépendance industrielle. Et là, on allait écrire la fin de l'histoire. Donc cet refus de la Commission européenne n'est pas une mauvaise affaire de notre point de vue, sauf que bien entendu, il se fait sur d'autres considérations, sur des considérations de concurrence soi-disant libre et non faussée. Nous, nous sommes pour avoir une vraie stratégie, une vraie politique industrielle au niveau européen qui fait cruellement défaut aujourd'hui.
Merci Marie-Claire. Alstom est-il vraiment menacé après cet échec de la fusion avec Siemens Dominique Riquet ?
Non, Alstom n'est pas menacé. Alstom a pour l'instant une visibilité de plus de 6 ans sur son carnet de commandes et il va très bien. Il faut rappeler que d'ailleurs, il n'y a pas que. Il y avait deux aspects. Hein. Il y avait le matériel roulant et le signal système. Et le signal système, c'est un marché encore plus important probablement que le matériel roulant. Ça se compte pas en locomotive là, mais ça se compte en investissement très très lourd. Ce qui est intéressant dans l'intervention de votre auditrice, c'est que il y a d'autres points de vue que le point de vue, je dirais, productiviste, ou le point de vue économique des actionnaires. Il y a le point de vue des travailleurs, des entreprises. Bon, c'est vrai que moi, je peux sortir quelques exemples de fusions entre égaux qui sont mal terminées pour les Français.
Il y en a une en ce moment qui ne marche pas très bien, c'est Air France KLM, hein, il faut bien le reconnaître.
Alors, bon, ça, on peut espérer que... Mais il y a encore là, on voit bien les États très présents.
Est-ce que finalement, Margaret Verchester n'a pas raison lorsqu'elle dit « big is pas forcément beautiful », quoi. C'est-à-dire le gros, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus beau.
C'est la performance qui compte. La performance, elle est quand même en partie corrélée à la taille. Je voudrais quand même rajouter quelque chose, parce que c'est quelque chose qu'on entend de manière récurrente. Et que l'Europe, c'est l'idiot du village mondial. Mais en réalité, l'Europe, c'est la première puissance économique au monde. Et à l'inverse des États-Unis, et même d'ailleurs de la Chine, nous sommes largement excédentaires dans les rapports qu'on a au monde, alors qu'on est obligé d'importer la totalité de notre énergie et quasiment de nos matières minérales. Donc on se débrouille très bien dans le système actuel. Maintenant, le monde change. Et on doit s'adapter, c'est la raison pour laquelle on est tous d'accord pour dire qu'il faut faire évoluer les choses et tenir compte de cette mondialisation et peut-être, et même sûrement, être plus protecteur maintenant.
Christine Rovadalon.
Oui, l'Europe va peut-être très bien d'une manière globale, mais on se rend compte que la situation des Européens n'est pas si bonne que cela. Et c'est là où on a beaucoup à faire. Et l'interrogation de l'auditrice, je la comprends. Et l'interrogation des syndicats, je la comprends aussi. On peut tout à fait mettre en place des champions européens sans se dire que la recherche ultime, c'est quoi qu'il arrive les bénéfices. Et puis, si on ne fait pas de bénéfices, c'est au prix de la casse sociale et des licenciements. Il y a d'autres méthodes de perception et de façon de construire l'avenir européen où on s'intéresse pas simplement à globalement comment va l'Europe, mais globalement comment vont les Européens et que pouvons-nous leur apporter. Et c'est en ce sens qu'il y avait tout à fait la possibilité, parce qu'encore une fois, ce que proposent et ce que construisent et Alstom et Siemens n'est pas la même chose, donc il n'y avait pas une concurrence, mais au contraire, il y avait la possibilité de faire de la valeur ajoutée et de l'étendre au-delà de la France et de l'Allemagne. Mais cette question extrêmement importante de la manière dont on va proposer concrètement une amélioration des conditions de travail des travailleurs européens, mais surtout qu'on va leur garantir des emplois. Vous avez parlé de la situation d'Air France KLM, moi je pense aussi aux fonderies du Poitou, où on a le sujet, et c'est un vrai sujet sur lequel l'Allemagne a avancé, et nous en France, on n'a toujours pas avancé. On est dans une transition écologique où on change les motorisations des véhicules, donc on doit aussi penser aux sous-traitants et à la manière dont on les accompagne dans des nouvelles économies. Et là-dessus, on doit apporter des réponses maintenant. C'est pas demain, c'est pas dans 10 ans, et c'est pas se dire, bon ben, Alstom, elle est tranquille pendant 6 ans. Non, c'est pas comme ça. Il faut voir l'avenir dès maintenant, mais le voir en mettant en avant le fait qu'on est 500 millions et qu'on a la capacité de revoir notre économie dans un environnement écologique important.
Alors justement, Andreas Schwab, quelle peut être une vraie politique européenne industrielle offensive et non pas défensive en quelque sorte ?
Bon, ça commence avec le constat de Dominique disant que nous sommes en ce moment encore le pouvoir important, le plus important dans le monde. C'est positif, mais ça va pas rester comme ça éternellement. Et donc, il faut maintenant s'interroger ce qu'on peut faire ensemble. Donc, dans cet contexte, on peut s'interroger pourquoi Alstom n'a pas vendu la partie électrique à Siemens, car cette fusion aurait été beaucoup plus intéressante. Mais bon, c'est vendu aux Américains. Et donc, l'enjeu reste l'idée comment les Européens peuvent vraiment s'enrichir entre eux. Et si entre la France et l'Allemagne c'est possible, il faut toujours penser, comme ça a été déjà dit, aux autres. Car les petits États membres, et je reviens sur la décision de Mme Vestager, ils n'ont pas voulu que sur le matériel de la signalisation, avec un partage du marché de 80% de Siemens et de Alstom, il y a un monopole pour les deux entreprises avec lesquelles ils auraient pu prendre des prix plus élevés dans les autres pays. Donc ça, c'est une crainte qu'il faut prendre en considération. Et avec cette crainte, on n'arrivera jamais à une autorisation de la Commission européenne dans ce contexte.
On retourne au standard, 19h43 sur France Inter. Ludovic, on vous écoute, votre question.
Oui, bonsoir. Je vous appelais en fait parce qu'on parle beaucoup de champions européens dans votre émission. Et en fait, moi, ma question est la suivante. Est-ce que on ne pourrait pas s'appuyer sur le modèle d'Airbus qui, pour moi, à mon sens, est un champion européen en matière de construction et qui permet la collaboration entre différents États? Est-ce qu'on ne pourrait pas se servir sur les prochaines tentatives de fusion entre grandes entreprises européennes de ce modèle-là, en fait, pour s'orienter vers ce type de partenariat?
Merci Ludovic. EADS, effectivement, Airbus, tout ça a très très bien réussi. Dominique Riquet, le modèle est-il encore bon?
Mais c'est une autre histoire, en réalité. Pourquoi? Parce que au moment où on prend la décision de créer effectivement EADS Airbus, on part de presque rien. Et finalement, l'industrie aéronautique extra-motorisation en Europe, elle est quasiment devenue inexistante face aux géants américains. Et là, on peut organiser, grâce à l'Europe d'ailleurs, on peut organiser un consortium multinational équilibré, qui est cette très belle histoire qu'on connaît maintenant.
Et pour quelle raison on ne peut pas le faire pour l'industrie dans le domaine avec Alstom et Siemens?
Parce que l'industrie ferroviaire, elle est très structurée, elle est leader mondial et donc pas rien du tout. Et que cette industrie très structurée, elle comporte un certain nombre d'entreprises qui, en Europe, se concurrencent entre elles. Ce qui est d'ailleurs un facteur de progrès. C'est la raison pour laquelle la commissaire a dit pas de fusion, parce que vous allez faire du tort, entre guillemets, au restant de l'industrie ferroviaire. Parce que, je vais vous dire, les Espagnols, les Italiens, les Anglais et les Bulgares et les Roumains aussi, d'ailleurs, on pourrait les citer, eh bien, ce sont des gens qui sont performants, qui exportent, qui sont présents sur le marché européen. Donc, quand vous partez de rien, vous pouvez avoir un concept qui est constructivement équilibré, mais quand on est dans un marché aussi concurrentiel, là, c'est pas du tout le même.
Et donc, il faut réellement changer cette politique concurrentielle européenne qui n'a plus aucun sens, et il est temps de pouvoir être vraiment en capacité d'être concurrentiel face aux Chinois ou aux Américains.
C'est-à-dire de s'unir une nouvelle fois, parce que le marché concurrentiel, Dominique Riquet vient de l'expliquer, mais comment on peut réussir une fusion au-delà de Alstom-Siemens dans le domaine ferroviaire, puisqu'effectivement, il y a plein d'autres concurrents.
Des concurrents aujourd'hui, mais qui peuvent être des alliés demain et qui peuvent faire en sorte qu'on ait un Airbus du ferroviaire. Tout le monde me dit, mais non, c'est pas possible, mais pourquoi ça ne le serait pas? Qu'est-ce qui s'y oppose? À part cette doctrine sur la politique concurrentielle qui n'a plus aucun sens dans la mondialisation telle qu'elle est.
Mais ça s'annonce compliqué. Bon, tout le monde a fait le constat qu'il fallait changer les choses.
Il y a un autre sujet sur lequel il faudrait pouvoir changer aussi les propositions, c'est sur le fait qu'on interdise toute intervention ou subvention d'État ou de l'Union européenne auprès de ces industries. Alors que le concurrent principal d'Airbus, qui est Boeing, lui, il n'a pas de problème pour avoir des financements de la part du gouvernement américain. De la même manière qu'en Chine ou en Arabie Saoudite, c'est la même chose. Donc on est dans un système où on reste peut-être pas les idiots du village, mais quand même, on n'est absolument pas en capacité de se défendre par rapport aux autres grands concurrents mondiaux. Et à la fin, qui est-ce qui trinque? C'est pas les grands patrons de ces entreprises, c'est les travailleurs qui se retrouvent licenciés en Europe. Et ça, c'est plus possible.
Andreas Schwab, il faut changer les règles de l'abus de position dominante, les règles sur les aides d'État, effectivement, face à des concurrents qui ouvertement sont subventionnés, comme par exemple dans le domaine aérien, les compagnies du Golfe.
Alors, c'est un point qui est correct, mais il y a aussi, il faut l'ajouter, rejeté des procédures de l'OMC sur Airbus et sur Boeing depuis longtemps. Donc, on n'accepte pas que les Américains font ça, mais malheureusement, ils le font quelquefois. Donc, il faut.
C'est un peu 50-50. Hein,
voilà. Et deuxièmement, je voudrais ajouter à ce qui a été dit par Dominique. C'est vrai que sur un marché qui est déjà complètement existant et bien structuré, c'est un problème d'inventer quelque chose de nouveau au niveau politique. Et en plus, si on n'a pas de partage de propriété des États membres pour mettre quelque chose ensemble, c'est encore plus difficile. Avec Airbus, qu'est-ce qu'on a fait? La France avait une partie du producteur français. L'Allemagne avait une partie du producteur allemand. On les a mis ensemble avec les Espagnols et les Italiens. Ça a fonctionné. Mais sur le marché des trains, il n'y a rien. Siemens, c'est une entreprise privée. Et donc, le gouvernement allemand et ni le gouvernement français peuvent dire, alors, vous allez faire ensemble. Non. Il faut une logique des marchés. Et si on ne peut pas prouver cette logique des marchés, ça ne va pas fonctionner.
Dominique Riquet.
Deux remarques. Bien sûr, si l'industrie ferroviaire européenne est la première au monde, c'est parce qu'il y a une concurrence importante en Europe. Et c'est comme ça qu'on est resté les premiers et qu'on est toujours les plus innovants et les plus exportateurs. Certainement pas pour autant, je suis pas absolument opposé à ce que dit Christine, c'est-à-dire on peut discuter sur maintenant une structuration un peu différente face à la mondialisation. Et la deuxième remarque très brève que je voulais faire, c'est que je suis d'accord sur le fait que l'industrie, elle est effectivement une histoire de performance vis-à-vis des clients, mais aussi vis-à-vis des gens qui la servent et des gens qui travaillent dans l'industrie. Je rappelle simplement une chose, je disais tout à l'heure, l'Europe c'est pas l'idiot du village, c'est la première puissance. Et la deuxième chose, c'est que l'Europe c'est aussi 7% de la population mondiale, 50% des dépenses sociales. Il faut retenir ça. Ça veut dire que notre prospérité est importante, elle doit être défendue. Il y a encore beaucoup de progrès à faire, je suis tout à fait d'accord. Mais n'oublions pas dans quel espace économique et social on vit quand même.
Au standard de France Inter, Réal, vous nous appelez 0145 24 7000. On vous écoute. Bonsoir Réal.
Oui, bonsoir. Alors moi, je suis plutôt d'accord avec la position de l'Union européenne sur ce sujet en général. En principe, pas nécessairement sur ce sujet, mais sur le fait qu'il faut favoriser la concurrence de façon à protéger les intérêts des consommateurs. Et là, le meilleur exemple que nous avons, c'est l'aviation. L'Europe a réduit les règles dans l'aviation, elle a laissé aller les low-cost airlines. Aujourd'hui, les citoyens européens peuvent voyager de petites villes. Personnellement, je voyage souvent entre Bristol et Béziers, OK, et à un coût défiant toute concurrence, c'est le cas de le dire. Et aujourd'hui, ça crée des emplois. À Béziers, il y a à peu près 10 000 personnes maintenant, que ça a commencé il y a 4 ou 5 ans. Aujourd'hui, il y a des vols sur l'Irlande, il y a des vols sur l'Allemagne, mais tout ça a commencé, je dirais, entre Bristol et... Donc, la concurrence, oui, ça protège le concurrent, le consommateur. Deuxièmement, les magouilles politiques pour essayer d'organiser l'industrie, ça résulte suivant, la plupart du temps, dans des canards boiteux. Et le meilleur exemple, c'est l'acierie ici en France, ça. Le contre-exemple de... Là où il y a eu une réussite politique, et ça a été mentionné dans votre émission, c'est Airbus, bien sûr, Airbus, OK? Donc, Merci. Pour un succès, il y a tellement d'échecs que quand les politiques se mêlent de créer là où le marché n'y est pas, quoi, de créer des entités qui ne répondent pas aux besoins du marché.
Merci Réal de votre témoignage. Effectivement, alors les politiques, c'est toujours des canards boiteux qui montent en Dominique Riquet, en
Vachois. Non, mais il y a un problème. Et je trouve l'exemple Airbus, l'exemple Alstom Siemens n'est pas le meilleur pour le prouver. Le meilleur exemple, c'est un autre cas, une autre procédure qui s'appelle Qualcomm Energy, une entreprise néerlandaise basée en Allemagne. Et ils voulaient fusionner. Ils ont rempli toutes les conditions de la Commission européenne, toutes les conditions des Américains, toutes les conditions des autres, sauf les Chinois. Les Chinois, ils n'ont justement rien fait. Et donc, après 3 mois, sans décision,
C'est-à-dire les Chinois n'ont rien fait
Aucune décision. Ils n'ont pas autorisé, ils n'ont pas non autorisé, ils n'ont rien fait. Donc finalement, après 3 mois, les entreprises ont dû arrêter la fusion. Cet exemple est beaucoup plus clair, qui montre beaucoup plus clairement l'enjeu devant lequel nous nous trouvons. Car quand même, nous avons besoin que les mêmes règles s'appliquent un peu partout dans le monde. dans le meilleur cas, on l'applique de la même manière, mais si des autres autorités de concurrence ne veulent pas faire la même logique, on a un problème aussi pour les entreprises européennes. Et là, il faut trouver un meilleur pas, un meilleur fonctionnement au niveau international. Et je pense que c'est là où aussi la France et l'Allemagne peuvent vraiment contribuer à un bon débat européen, car là, nous avons vraiment un problème.
Dominique Riquet.
Oui, je suis assez d'accord. Il faut rappeler d'ailleurs qu'il faut que les autorités, dans le cadre de l'OMC, de la concurrence des différents pays, soient d'accord et que Mme Vestager a empêché des fusions aux États-Unis aussi. Hein. Ça peut arriver quand même. Bon.
On rappelle quand même que la Commission, c'est extrêmement rare lorsqu'elle interdit en quelque sorte une fusion. 1%, c'est à 99% des dossiers généralement sont validés.
Elle dit oui. Non, la deuxième remarque que je voulais faire, c'est que les grandes fusions, comme les chinoises par exemple, sont-elles performantes? Et moi, je m'interroge. Alors, elles nous font peur, à la fois par la profondeur du marché chinois et la taille du marché. Vous avez vu, il ne vous a pas échappé que cette semaine, on vient de minorer le produit intérieur brut chinois qui était bidonné de manière considérable, 12% quand même, de produit intérieur brut qui a disparu sur les 7 dernières années. Que deuxièmement, on a beaucoup de mal à apprécier le fonctionnement de ce genre d'entreprise et leur viabilité économique vraie. Alors là, on repart sur la discussion que votre auditeur soulevait, qui était l'économie administrée ou l'économie libérale. Bon, qu'est-ce qui fonctionne le mieux? J'ai une petite idée sur la question.
C'est compliqué avec une économie colbertiste à la française et une économie libérale en Allemagne ou dans d'autres pays, de trouver un terrain d'entente sur le plan politique. C'est peut-être là le vrai problème du déclenchement d'une politique européenne industrielle. Christine Revaud-Allon.
Moi, je pense que c'est parce que, précisément, le politique se mêle pas assez de ces éléments-là. Et donc, je suis absolument pas d'accord avec ce qu'a dit l'auditeur, mais chacun son point de vue. Je pense que c'est pas du tout les fusions des magouilles politiques, mais c'est d'abord des questions d'accord entre business, et que, précisément, il faudrait mettre davantage de règles et de transparence pour que les choses se fassent en bonne compréhension, et qu'il me semble que l'intérêt des consommateurs, c'est aussi l'intérêt des travailleurs, parce que pour être consommateur, à un moment donné, il faut avoir un travail pour pouvoir le dépenser ensuite. Et donc l'idée de dire que tout ce qui coûte le moins cher, c'est le mieux, il faut quand même regarder comment on parvient à cela. Et puisque Dominique Riquet rappelait la question du coût de la dépense sociale, qui est pour moi un gain, puisque ça permet aussi d'accompagner, et donc c'est un gain économique global, c'est tout ça qu'il faut regarder dans l'économie, c'est toute sa globalité. Et donc, on n'a pas le même point de vue, et je pense que l'Union européenne devrait faire davantage pour encadrer, harmoniser et mettre plus de transparence. Et on l'a vu sur un certain nombre de sujets où il est encore difficile d'avoir la transparence dans les décisions et les propositions législatives faites par la Commission européenne, où finalement, ce sont beaucoup de lobbies industriels qui viennent pour tenir le crayon des différentes normes, et qu'il a fallu qu'on mette en place un certain nombre de commissions spéciales et de commissions d'enquête au Parlement européen pour faire toute la lumière et pour s'assurer que tous les Européens sont au même niveau d'information.
Très rapidement, Dominique Riquet, on tournera au standard.
Premièrement, pour qu'il n'y ait pas de confusion, je me félicite qu'il y ait 50% de la dépense sociale mondiale en Europe, parce que elle est garantie par notre prospérité. La deuxième remarque, c'est que contrôle n'est pas organisation. C'est-à-dire, l'économie administrée, c'est une économie de type nationalisé, entre guillemets. Moi, je pense qu'il faut qu'il y ait des contrôles, des règles, qu'il y ait des acteurs politiques ou régulateurs nationaux qui surveillent que les choses se passent avec les bonnes règles, mais leur travail, c'est pas de faire tourner l'économie. Alors, je pense que surveiller, réguler, mais pas réaliser, en fait, le travail économique.
Au standard, on retrouve Jean-Marc qui nous appelle de Nice. Bonsoir Jean-Marc, on vous écoute.
Oui, bonsoir. Donc, je voudrais réagir en tant que... Donc, je travaille en tant que directeur technique dans un grand projet européen, donc qui est le projet Rail Baltica, un corridor de ferroviaire qui va de la Pologne jusqu'à l'Estonie. Donc, pour notre part, nous nous félicitons de la décision de la Commission, parce que nous comptons sur des fournisseurs qui soient à la fois diversifiés, européens de préférence, et également innovants. Et dans le secteur ferroviaire, il y a eu de très nombreux exemples de concentration ou de quasi-monopole qui a mené à tuer tout ce qui était innovation industrielle. Et in fine, c'est contrairement à cette politique de champion industriel, est complètement contre-productive, puisque à partir du moment où nous devons mettre en concurrence nos fournisseurs, et ensuite sur les fournisseurs non européens ou éventuellement chinois qui se retrouveraient conduits à devenir beaucoup plus présents dans nos consultations.
Merci Jean-Marc de votre témoignage. Alors effectivement, Jean-Marc l'explique très bien, les fournisseurs risquent, si on fait des grands groupes industriels, on risque d'avoir des fournisseurs qui viennent qui seront extérieurs à l'Europe, on ira les chercher en Chine par exemple. Andreas Schwab.
Ah, ça dépend, je pense qu'on ne peut pas généraliser ça. Mais c'est clair que nous n'avons pas d'intérêt que les entreprises, le tissu des petites et moyennes entreprises part de l'Europe. Et les grands groupes ont aussi une responsabilité sociale et politique et économique pour ces tissus industriels européens. Ça ne peut pas être la logique des fusions, ça c'est clair.
Alors, j'ai une question internet de Guy de Lyon. Ne serait-il pas bon de créer un ministère européen de l'industrie et du commerce? Est-ce que ça ferait avancer les choses? Dominique Riquet.
Moi, si vous demandez ça, je suis fédéraliste, alors je vous réponds tout de suite oui. C'est-à-dire tout ce qui va vers plus d'intégration européenne, je supporte, je suis pour. Je pense que ça aurait un certain nombre d'avantages, parce que ça permettrait d'harmoniser et de rendre effectives les règles, plus effectives les règles. Bon, on en est loin hein, pour l'instant.
Mais on a un commissaire pour l'industrie.
On a un commissaire, mais ça n'est pas un ministère. C'est-à-dire que...
Ah ok, c'est différent, c'est nouvelle pour moi.
Mais bon. Christine Revaud-Allonne.
D'abord, il faudrait un gouvernement européen, oui. Avec un gouvernement avec une majorité cohérente et pas simplement des propositions de commissaires qui sont nommées par les États. Et on va avoir...
En même temps, le rôle du commissaire, c'est effectivement de faire respecter les traités, non, c'est de mettre
des règles dans un marché ultra-concurrentiel,
et c'est ce que fait la Commission aujourd'hui.
Il faut avancer vers quelque chose de beaucoup plus clair et de beaucoup plus efficace. Donc il faut qu'on ait réellement un gouvernement européen qui est responsable devant le Parlement européen et qui ait une majorité politique claire, qu'elle soit de droite, qu'elle soit de gauche, mais que ce soit clair. Et dans ce cadre-là, effectivement, il faudrait un ministère de l'industrie, absolument. Je ne l'appellerai pas ministère de l'industrie et de la concurrence, parce que pour moi, encore une fois, ce sujet, c'est has-been, quoi.
Andreas Schwab.
Oui, je suis d'accord.
Vous êtes d'accord.
Il faut attendre aux majorités politiques, mais je suis d'accord.
Il faut attendre une nouvelle majorité politique.
Mais bon, cette majorité peut être ni de droite ni de gauche.
Bon, c'est-à-dire, c'est-à-dire, on est dans une forme d'attentisme. Est-ce que ça sera peut-être ma dernière question. Guillaume Pépi, le PDG de la SNCF, disait le projet aurait pu permettre une meilleure compétitivité. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas?
Oui.
Christine Revaud-Allonne.
Oui, complètement. Mais tout.
Non, mais de qui?
Ben, une meilleure compétitivité de l'Union européenne. Franchement, il faut regarder devant soi. Il faut arrêter avec les règles d'avant qui ne fonctionnent plus. Et vraiment, il faut qu'on soit fort. On est 500 millions d'Européens. Et les États-Unis sont 320 millions d'Américains. Pourquoi on ne se met pas à ce niveau-là et qu'on n'a pas la capacité de dire, eh ben voilà, on a des champions européens, on prend des fournisseurs d'abord européens parce qu'on développe le Buy European Act et on avance de cette manière-là.
Ce
on peut le faire.
Ce sera le mot de la fin. On arrive au terme de cette émission. Merci à tous les trois. Dans quelques instants, il sera 20h sur France Inter. Merci à Fabrice Legge pour avoir réalisé cette émission de Paris, assisté d'Amélie Stadelmann.